six régions qui finançaient l'OIP ont supprimé leurs subventions, avec en tête l'Île-de-France, Rhône-Alpes-Auvergne et les Hauts-de-France, et deux départements. Santé publique France et le Fonds pour le développement de la vie associative ont fait de même. Le comité interministériel de prévention de la délinquance a diminué sa subvention annuelle de moitié. Ce sont donc 282 000 euros de moins qu'en 2019 par rapport à 2014. De même, le commissariat général à l'égalité des territoires, qui finançait les missions d'accès aux droits en détention, et le ministère des Outre-mer, qui soutenait l'action pour les détenus ultramarins, eh bien, les deux retirent leur soutien à l'Observatoire international des prisons, donc. Les activités de l'Observatoire sont gravement mises à mal par ces défections. Est-ce qu'elles n'auraient plus de raison d'être? Pas vraiment. Le nombre des détenus est passé de 67 000 à près de 72 000, record absolu en temps de paix. Résultat, surpopulation, violence, inactivité, perte de repères et de sens, cocktail explosif qui fait de temps en temps l'actualité, avant de retomber dans l'oubli. 20 ans après les enquêtes parlementaires qui dénonçaient l'inhumanité des prisons, elle reste une humiliation pour la République. Ce désengagement qui touche tout le secteur associatif marque le choix de ne pas soutenir une association souvent critique des politiques publiques. C'est alors que les contre-pouvoirs, qui doivent être les garants de la démocratie, souffrent. Et dans un état de droit, les gouvernements doivent veiller à leur vitalité plutôt que les affaiblir. C'est nier la diversité des actions de l'Observatoire international des prisons. Cet observatoire est un interlocuteur essentiel pour les dizaines de milliers de personnes, détenues ou proches des détenus, confrontées à une incarcération, et dont l'ensemble des repères sont alors bouleversés. Ils reçoivent auprès de l'association renseignements, conseils ou simple attention, qui est pourtant capitale. L'Observatoire, c'est aussi un site internet d'information, un journal trimestriel, des guides, des rapports, une expertise. Tout ce qui fait de l'association une des principales références en matière d'information sur la prison. Elle a été citée à plus de 1300 reprises dans les médias cette année. L'Observatoire est une force de proposition respectée et attendue pour les institutions parlementaires, corps d'inspection ou groupes de travail ministériels qui sollicitent son analyse quand ils traitent de questions de l'univers carcéral. Et c'est un garde-fou essentiel contre les abus de pouvoir dans ce monde clos, invisible, où il est si facile de les faire prospérer, les abus de pouvoir, et de les cacher. Toutes ces actions sont aujourd'hui menacées, et avec elles le peu d'attention portée à celles et ceux que la société a exclus, non seulement de l'espace public, mais aussi de ses règles, de ses préoccupations, et qu'elle ne peut pourtant ignorer, ne serait-ce que parce qu'un jour, ils sortiront. Alors, l'Observatoire international des prisons appelle à un sursaut politique et citoyen pour continuer à mener sa mission. Une mission unique, indispensable, au service de l'intérêt général. Il lui faut impérativement être soutenu. Alors, pour contact, Pauline de Smet, 07 60 49 19 96. Thank you. Ce 13 novembre, voilà une petite info qui montre comment évolue la société. Le 9 octobre, Jean-Paul Doutreloup, doyen de la faculté des sciences du sport et du mouvement à l'Université Toulouse 3 Paul Sabatier, demande à ses collègues de redoubler de vigilance. La menace terroriste n'est pas un vain mot, écrit-il dans une note de service. Dans ce contexte, et sans toutefois tomber dans la psychose, je vous invite à signaler systématiquement à Dilshad, un de nos collègues, et à moi-même, tout comportement décalé de la part des étudiants et étudiantes et autres personnes dans le cadre de vos créneaux d'enseignement, de votre activité de soutien à la scolarité, du soutien logistique, de l'accueil, etc. Soucieux de ne pas heurter les esprits sensibles, le doyen assure qu'il ne s'agit pas de délation, mais de simples préventions primaires permettant d'alerter les services compétents. Les 80 enseignants et les 2100 étudiants concernés apprécieront la nuance. Ni le doyen, ni Régine André Aubrecht, présidente de l'université, n'ont souhaité faire de commentaires.
Qui borde les chemins se fanait tout demain. Je garderai au cœur celle qui s'allumait dans tes yeux. Que je t'aimais trop au pays merveilleux de nos 16 printemps, petite fleur d'amour, tu fleuriras toujours. Un matin se fanait sur les marches du palais. Je garderai, je garderai la petite tu fleuriras toujours au grand jardin d'amour.
Nous arrivons à l'actualité judiciaire. Le 10 octobre, nous étions devant le tribunal à Toulouse, de 8h du matin et jusque dans l'après-midi, témoignant de notre révolte contre les crimes de la police et particulièrement contre l'assassinat de Rémi Fraisse, il y a eu déjà 5 ans, le 25 octobre. Ce 10 octobre avait lieu le jugement d'appel contre la relaxe prononcée à l'égard du gendarme qui avait lancé la grenade mortelle sur Rémi. Rémi Fraisse, qui appelait au calme en levant les mains en l'air. cette nuit du 25 octobre 2014 à Sivens. Ce 10 octobre, devant le palais de justice de Toulouse, le palais d'injustice, disait une amie avocate, 15 quarts de CRS pour lutter contre le chagrin de quelques dizaines de fidèles, équipés seulement de 2 banderoles et d'une affiche, avec quelques tracts informatifs et une corbeille de viennoiseries pour tenir le plus tard possible. Ce 10 octobre. La décision de la cour d'appel sera rendue le jeudi 9 janvier. On vous tiendra au courant. Sur ce triste sujet, on continue. Appel à soutenir les observateurs et observatrices de l'Observatoire des pratiques policières de Toulouse. Le maintien de l'ordre policier pose désormais la question de nos libertés. Les violences policières frappent aveuglément et sans discontinuer les manifestants et manifestantes, les militants, les syndicalistes, les journalistes, et même les simples observateurs et observatrices des libertés publiques, seulement en charge de rendre publiques les pratiques constatées, comme le 28 septembre dernier à Toulouse, par exemple. Silence des autorités publiques qui s'abstiennent de répondre aux appels ou de donner suite aux innombrables plaintes déposées quand elles n'encouragent pas expressément ces pratiques. Il se pose désormais clairement la question de savoir qui commande, qui dirige les opérations de maintien de l'ordre entre les autorités qui s'en sortent avec des pirouettes de langage administratif et des corps de police gangrenés par des groupes et des syndicats qui propagent ostensiblement l'idéologie de l'extrême droite. Ça suffit. Toutes et tous affirment leur attachement aux libertés publiques et à la démocratie et s'élèvent contre le piétinement incessant de nos libertés, organisé par ce gouvernement. Exigeons la fin de la violence d'État par certains policiers en rupture avec la démocratie et la République. La Ligue des droits humains et les observateurs et observatrices victimes de violences policières ont déposé plainte le 25 octobre au tribunal de Toulouse. Vous pouvez signer la pétition en cliquant sur un lien que je vous mettrai sur la page de podcast, parce que là, sur mon document, il a 3 lignes et demie, et ça manquerait de poésie encore plus si je vous le lisais. Donc, vous trouverez le lien pour signer la pétition pour la Ligue des droits humains et les observateurs et observatrices des violences policières. Et puis, tant qu'on y est, encore une petite actualité judiciaire, je dis petite, mais elle n'est pas petite du tout. Je vous ai beaucoup parlé de Chimirec et de l'usine effrayante qu'on nous promet à Muret Nord. Et on vient d'apprendre que Chimirec, que nous attaquons bien sûr, on vient d'apprendre que Chimirec a déposé un recours contre la mairie de Muret, laquelle a bien entendu interdit l'activité et refusé, pour ce faire, elle a refusé le permis de construire. Alors Chimirec attaque la mairie de Muret. Il y aura une audience au tribunal administratif dans une dizaine de jours, le 22 novembre à 10h45. Nous en reparlerons donc.
Si tous les canons du monde se mettaient à tirer, ça ferait beaucoup de bruit. Si tous les volcans qui grondent venaient à se réveiller, ça ferait beaucoup de bruit. Mais il est encore un bruit beaucoup plus fort. Si tous les cocus avaient des clochettes au-dessus, au-dessus de la tête, ça ferait tant de chahuts qu'on ne s'entendrait plus. Si tous les bavards du monde parlaient en même temps, ça ferait beaucoup de bruit. Si toutes les femmes furibondes tuaient leurs amants, ça ferait beaucoup de bruit. Mais il est encore un bruit beaucoup plus fort. Si tous les cocus avaient des clochettes au-dessus, au-dessus de la tête, ça ferait tant de chahuts qu'on ne s'entendrait plus. Si les brunes et les blondes vibraient en même temps, ça ferait beaucoup de bruit. Que les rousses à la même seconde en fassent autant, ça ferait beaucoup de bruit. Mais il est encore un bruit beaucoup plus fort. Si tous les cocus avaient des clochettes au-dessus, au-dessus de la tête, ça ferait tant de chahuts qu'on ne s'entendrait plus. Si tous les peintres du monde sifflaient en même temps, ça ferait beaucoup de bruit. Si les poivrons à la ronde en faisaient autant, ça ferait beaucoup de bruit, mais il est encore un bruit beaucoup plus fort. Si tous les coquilles avaient des clochettes au-dessus, au-dessus de la tête, ça ferait tant de chahut qu'on ne s'entendrait plus. Si toutes les chasses d'eau du monde chassaient en même temps, ça ferait beaucoup de bruit, que les gendarmes à la ronde ronflent au même moment. Ça ferait beaucoup de bruit, mais il est encore un bruit beaucoup plus fort. Si tous les coquilles avaient des clochettes au-dessus, au-dessus de la tête, ça ferait tant de chahut qu'on ne s'entendrait plus.
Maintenant, si on parlait de la rue Pas Chirac. À la suite des protestations de l'association Survie, que l'on entend régulièrement sur l'antenne de Canal Sud, la mairie de Toulouse a annoncé le report du vote sur la transformation du boulevard des Crêtes en avenue Jacques Chirac. Il reste probable que la mairie essayera de rendre hommage à Chirac en lui dédiant un autre lieu, probablement. Nous vous tiendrons au courant si la tentative se reproduit. En attendant, vous pouvez écouter ou réécouter l'hommage spécial « Made in Survie » de l'émission « Décolonisons » du 22 octobre. Qui est à retrouver donc en podcast sur canalsud.net. Si on parlait de Golfech, la centrale nucléaire de Golfech, bien sûr, exigeant sa fermeture après le dernier incident en octobre, incident grave, et le 8e en 22 mois. Que se passe-t-il à la centrale nucléaire de Golfech en Tarn-et-Garonne? En conférence de presse le 25 septembre 2019 à Toulouse, l'autorité de sûreté nucléaire, l'ASN, a reconnu que le nombre d'incidents significatifs a augmenté en 2018 dans cette centrale. 4 événements significatifs pour la sûreté en 2018. En tout, ce sont en fait une trentaine d'événements, comme dit l'ASN, qui ont été relevés en 2018. Et 5 d'entre eux ont été classés de niveau 1, ce qui n'est pas du tout négligeable, sur l'échelle qui en compte 7. La chef de la division de Bordeaux de l'ASN, Hermine Durand, détaille. 4 de ces événements concernent l'exploitation du réacteur. L'un d'entre eux a d'ailleurs occasionné une visite de l'ASN sur le site. Diagnostic. Défaut de surveillance dans la salle des commandes. Et en particulier, réglage incorrect d'une soupape du circuit secondaire principal. Dépassement de la température autorisée d'un réservoir d'eau de secours. Ou encore, non-respect de la conduite réglementaire à tenir, ce qui peut vouloir dire énormément de choses. Tout ça figure parmi les anomalies relevées en 2018. Globalement, l'ASN, dont je vous ai dit à plusieurs reprises toute la méfiance qu'elle m'inspirait, l'ASN estime que la qualité des opérations d'exploitation de la centrale s'est détériorée. Des défauts de surveillance en salle des commandes ont conduit à ce qu'on appelle pudiquement des actions inappropriées. Des difficultés organisationnelles doivent être levées, estime Bertrand Frémaux de l'ASN de Bordeaux, en rappelant que sur le site, près de la moitié des effectifs ont changé en 5 ans. On avait déjà parlé du turnover, comme on dit, du remplacement des équipes très très fréquentes pour des tas de raisons sur les sites nucléaires. Ben oui, on les change. Seulement, chaque fois qu'on les change, ben, l'équipe qui arrive a perdu de l'efficacité. Et Hermine Durand confirme « Ces mauvaises performances semblent être liées à des problèmes organisationnels et humains. » L'équipe chargée de la conduite du réacteur 2 a fonctionné au minimum requis à plusieurs reprises pendant l'arrêt programmé du réacteur. Et les conditions de sérénité en salle de commande se sont dégradées sur les 2 réacteurs. Hermine Durand précise, on note des défauts dans la préparation et la réalisation des activités capitales de radioprotection. Rien que. Les analyses de risques sont parfois insuffisantes. Des intervenants ne tiennent pas assez compte des alarmes de leur dosimètre. C'est-à-dire qu'ils ont des compteurs GGR qu'ils ne regardent pas et surtout n'écoutent pas. Alors, personnellement, je crois que ces conclusions mettent en cause facilement ce qu'on appelle des lampistes, sans évoquer leurs très difficiles conditions de travail et leur précarité, qui les poussent à la négligence dans l'observation des consignes. C'est plus facile que d'expliquer les défauts de ces machines aberrantes ou du système d'exploitation dont les coûts sont régulièrement rabotés au nom de la rentabilité. En octobre, l'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire donc, devait mener une inspection renforcée sur le site. 20 inspecteurs évaluant sur place les problèmes organisationnels et humains. Le résultat de cette inspection ne sera pas connu avant plusieurs mois. Depuis le début de l'année, 2 incidents de niveau 1 et 1 incident de niveau 2 ont été déclarés à Golfech, selon la SN. Ce sont des incidents concernant des problèmes communs à plusieurs centrales en France. C'est-à-dire que on peut en relever des incidents comme ça un peu partout. Et puis, à propos des problèmes communs à toutes les centrales en France, au Japon ou ailleurs, on pourrait demander leur opinion aux habitants du village du Teil en Ardèche. Ils ont sûrement de bonnes idées à donner au gouvernement. Le nucléaire, il faut y aller sur la pointe des pieds. Un petit regard sur ce qui se passe en Algérie ou ce qui s'est passé le 17 octobre 2019. Un collectif des avocats algériens bénévoles contre l'ordonnance du prolongement du mandat de dépôt de 6 porteurs du drapeau berbère. On peut se reporter à l'adresse www.reporter.dz pour plus de détails. Des avocats bénévoles donc se sont mobilisés pour la défense des détenus politiques du mouvement populaire à l'appel du bâtonnier de Tizi Ouzou. Yamina Halili, membre du collectif de défense, prône le boycott des procédures de présentation au parquet pour 85 détenus et 18 placés sous contrôle judiciaire, accusés d'atteinte à l'unité nationale, d'incitation à l'attroupement et à la violence, d'atteinte à la sécurité de l'État ou de démoralisation des troupes de l'armée en temps de paix. Les avocats dénoncent les atteintes aux libertés individuelles et collectives et rappellent que la Constitution et les lois en vigueur garantissent la liberté d'expression et le droit de manifester. Ils reprochent aux magistrats instructeurs de recourir systématiquement à la détention préventive, le mandat de dépôt, qui doit être exceptionnel, étant devenu la règle. Un juge d'instruction a prolongé le mandat de dépôt de 6 interpellés, détenus depuis le 23 juin dernier, avec 19 autres manifestants. Pour ce premier groupe arrêté pour port du drapeau berbère, les avocats s'attendaient à un non-lieu, parce qu'il s'agit de procès politiques et que les dossiers sont vides. Le renouvellement de la prison préventive est possible une seule fois, pour une durée de 4 mois. Et le juge est dans l'obligation de justifier une décision pareille. Alors on se tient au courant et on vous donnera des nouvelles d'Alger.
Nous continuons
à parler de justice et d'injustice et de prison et de police. Alors nous recevons aujourd'hui deux amis qui viennent nous parler de la situation des Gilets jaunes et de l'opposition en général à ce gouvernement qui s'occupe si bien de nous. À vous les amis, à vous les micros.
Bonjour.
Merci d'être venus.
Bonjour.
Merci à vous.
Merci de nous inviter, Daniel. Bon, moi, c'est Antoine. Et en face de moi, on a...
Moi, c'est Tom.
Voilà, donc Tom et Antoine. Bon, c'est toi qui fais l'émission, donc on va te laisser nous guider, nous driver un peu. Mais peut-être qu'on peut déjà dire, en fait, je ne sais pas... Pourquoi est-ce qu'on est là et qu'est-ce qui justifie un peu notre présence? On fait partie de la défense collective de Toulouse.
Oui. Ouais, déjà on peut situer à quel moment le collectif s'est créé, dans quel cadre pour commencer. Parce que du coup, ça a émané du mouvement Gilets jaunes. Mmh. Même si pour le coup, à Toulouse, il y avait déjà une pratique l'antirépression, il y avait déjà une caisse autodéfense juridique, enfin des choses qui se faisaient pour répondre à la répression. Mmh. Mais c'est vrai qu'à Toulouse, début décembre, au milieu d'énormes manifs, et de toute façon, enfin le début décembre... que tout le monde a vu par rapport au mouvement Gilets jaunes qui a été extrêmement fort. À Toulouse, il y a eu une répression absolument sans précédent, où ça a vraiment été de l'abattage, où enfin, après chaque manif, on voyait une quantité de personnes passer au tribunal et se faire massacrer par les juges. Et on s'est dit qu'il fallait faire quelque chose, quoi, qu'il fallait s'organiser et produire de la solidarité en acte pour défendre le mouvement. Et c'est vrai que du coup, il y a eu cette création du collectif, de la défense collective, qui du coup a émané de la commission action, qui a été une espèce de sous-commission action du mouvement Gilets jaunes à Toulouse.
Tout à fait. Yeah. Voilà, c'est ça. Bon, en plus, Tom est plus ancien que moi dans le groupe. Moi, j'ai rejoint le groupe en janvier, donc enfin janvier-février, je crois, disons. Mais donc, c'est vrai que Tom a déjà parlé de l'aspect judiciaire. Nous, c'est vrai qu'en général, on dit qu'on défend les gens de la rue à la prison. Et donc, ces pratiques qui sont les nôtres consistent à... Voilà, des fois on dit anti-rep, bon ça aussi ça peut être critiquable comme expression, mais en tout cas voilà, on essaie d'intervenir auprès de quiconque, puisque comme on le disait tout à l'heure hors antenne, les Gilets jaunes c'est un combat qu'on mène pour tous en fait, pour tous et toutes, intervenir auprès de tout le monde pour à la fois donc faire de la prévention on va dire, grâce à des documents, de l'information, beaucoup de tracts qu'on rédige et puis qu'on imprime et qu'on distribue en manif, mais ça a aussi été de manière plus concrète et matérielle, ben des masques ou des sérums filles, tout ce qui peut aider à essayer de se défendre en fait contre la violence policière. Voilà, et puis éventuellement aussi des pratiques très concrètes de défense, j'allais dire de défense offensive, mais c'est pas ça, mais de défense concrète sur le terrain, en acte, en mouvement, en déplacement. Enfin voilà, on essaie d'être présent sur place pendant les manifs et autres événements s'il y a, hein, il n'y a pas que les manifs évidemment, en tout cas pour le côté urbain, répression policière, on a essayé aussi d'être très présent. Après comme dit Tom, il y a le judiciaire, c'est une répression qui se voit beaucoup moins, mais qui est, je ne sais pas si elle est pire, en tout cas elle est très très féroce aussi.
Ah, c'est le deuxième moment. Voilà. Hein. Les flics te tapent dans la rue et les juges t'attendent après pour te mettre sous les verrous.
C'est ça. Et donc, bon, j'ai déjà pas mal parlé, peut-être. Tu peux détailler un petit peu sur le judiciaire, voilà, c'est la continuité, quoi. Ça.
Ouais, par rapport au judiciaire, ce qu'on fait justement pour défendre le mouvement, il y avait cette volonté de tous ces gens qui passaient devant les juges, de ne pas les laisser tout seuls. Surtout qu'à ce moment-là, une grosse partie allait à Seyss, allait en prison. Et du coup, pour ne pas les laisser tout seuls, il fallait être solidaire. Et pour être solidaire, un des premiers trucs qu'il fallait faire, c'est qu'il fallait que ça se sache, tout simplement. Parce que les gens n'étaient pas au courant que ça se passait comme ça dans les tribunaux. Donc il fallait faire du suivi, faire un gros travail d'information, être en contact avec ces gens qui partaient en prison. C'est pour ça qu'on a des relations épistolaires avec les détenus, les incarcérés. Et qu'on a fait tourner, pour ceux qui voulaient, leur numéro d'écrou sur les réseaux, les commissions, au sein du mouvement, dans les manifs d'ailleurs, pour que d'autres gens puissent leur écrire. Et pareil, donc du coup, ça c'est vraiment un suivi pour savoir ce qui se passe, le faire connaître. Et un autre truc qu'on fait beaucoup et qui est super important, c'est envoyer de l'argent aux détenus, parce qu'en prison, il faut cantiner, tout coûte. Et logiquement, la plupart des Gilets jaunes sont des gens qui, déjà, quand ils rentrent en prison, on peut les moyens. C'est souvent pour ça qu'ils se retrouvent dans le mouvement Gilets jaunes. C'est un mouvement de pauvres, de travailleurs pauvres, de chômeurs, de précaires. Voilà. Et bah, du coup, on leur envoie de l'argent, on leur envoie ce qu'on appelle des mandats, ce qui leur permet d'acheter les trucs de base dans la prison. Et c'est vrai que du coup, pour ça, avec la défense collective, un des trucs qu'on fait pas mal, c'est des soirées de soutien pour faire rentrer de l'argent où on demande de l'argent en manif. Enfin voilà, on essaie de faire de l'argent, et une grosse partie de ce qu'on fait, ouais, c'est ça, c'est envoyer des mandats aux détenus.
Tout à fait.
Il paraît que pour cantiner, il faut beaucoup d'argent. Il paraît que le prix des produits proposés en cantine est épouvantable. Mmh. Ça n'a rien à voir avec les prix du commerce courant.
Tout à fait. C'est souvent deux à trois fois plus cher que...
Deux à trois fois plus cher.
J'allais dire, c'est la double peine, si je peux me permettre. C'est-à-dire, quand on dit, bon, quelqu'un est emprisonné, bah, il est privé de liberté. C'est déjà énorme. Mais en plus, ça ajoute à ça tout un tas de choses qu'en fait, on ne voit pas forcément quand on n'y est pas confronté ou quand on n'a pas affaire à des personnes qui sont incarcérées. C'est-à-dire... Bon, il y a le prix des choses et puis il y a tout un tas d'autres choses encore aussi implicites dans l'enfermement, en fait.
La promiscuité, partager quelques mètres carrés, etc. etc.
Et d'ailleurs, inversement au prix de ce qui est cantiné, qui est beaucoup plus cher que ce que les gens dehors payent. Par exemple, aussi, les gens qui travaillent, puisqu'il y a une possibilité de travailler en prison, sont payés deux fois, trois fois moins cher que le SMIG. Oui, oui, oui. Et par exemple, certaines entreprises comme BVA ou d'autres qui embauchent des taulards dans les prisons les payent 3 euros de l'heure, 4 euros de l'heure, quelque chose comme ça.
C'est pareil, ça on le sait très peu. En fait.
Oui, ça c'est peu. Ouais.
Quelle honte.
Il y a des marchands de prison, hein, clairement.
Ouais, ouais, tout à fait. Et un petit élément.
Oui.
On est de retour.
Voilà. on t'avait un petit peu coupé la parole tout à l'heure. Est-ce qu'on peut y revenir ?
Oui, bien sûr. En fait, ce que j'allais dire, c'est que bon, je crois qu'on a fait, on a dépeint à peu près le tableau dans l'ensemble de ce qu'on fait, mais sur le plan judiciaire, il y a quelque chose qui nous tient à cœur et je crois qui est très pertinent, justement. Pour expliquer pourquoi est-ce qu'on s'appelle aussi une défense collective, c'est qu'on va assister aux comparutions immédiates, en fait. Donc on fait des permanences chaque jour de la semaine au TGI. donc à 14h, pour voir en fait les personnes qui sont... Alors soit on sait qu'il y a des procès qui vont arriver, soit on y va un peu à l'aveugle, et puis on regarde s'il y a des personnes en fonction des chefs d'inculpation qui ont été arrêtés pendant les manifs et qui vont comparaître. L'intérêt de ça, c'est justement de briser l'isolement, de faire en sorte que les gens se rendent compte qu'il y a d'autres personnes comme nous qui sont là et qui sont prêts à les aider. Et parce qu'on pense que précisément, c'est le fait d'être collectif qui permet, comme tu disais une fois Tom, d'instaurer un rapport de force avec l'État ou en tout cas les appareils, que ce soit policier ou judiciaire, un rapport de force qui a vraiment du poids. Et surtout parce que psychologiquement, quand on est un peu pris dans cet engrenage de répression, de déferment et puis éventuellement d'incarcération, c'est très dur de tenir et donc se sentir épaulé. Ça fait du bien, donc pour quelques expériences, j'ai le souvenir d'être allé évidemment quelques fois donc, au TGI, et puis bon, on s'assoit dans la salle d'audience et on attend, et on voit aussi tout un tas de choses, tout un tas d'autres affaires, ce qui n'est pas inintéressant, ce qui apprend aussi à voir la réalité de cette répression, et même du système judiciaire en lui-même. Je veux dire, sur le plan sociologique, c'est intéressant aussi de voir les personnes qui jugent, les personnes qui sont jugées, la récurrence des profils. Voilà. Et puis, donc, si on voit une personne ou qu'on sait être gilet jaune ou qu'on devine, eh ben on va la voir. On lui dit qu'on fait partie de la défense collective et on explique un peu ce qu'on fait et on lui propose notre soutien si elle en a besoin, que ce soit un soutien financier, comme le disait Tom, ou un soutien juridique avec des conseils d'avocats, des suggestions. Voilà, pour la partie vraiment judiciaire, c'est ce qu'on fait aux tribunaux, quoi.
Voilà. Oui. Comment se passe l'entrée en salle d'audience ? C'est filtré
Non, c'est ça qui est assez intéressant. Enfin, ce qui est filtré, c'est à l'entrée du TGI, du tribunal,
oui,
grande instance.
Oui, parce que là,
il y a un portique.
Là, il y a un portique, voilà. Oui.
Sinon, après, j'avoue que ça, pour le coup, c'est... Enfin, en fait, c'est la normalité, mais ça peut paraître super quand on ne sait pas que c'est la normalité. Après, on peut rentrer dans les salles comme on le souhaite, puisqu'on a été fouillé au préalable.
Oui.
Et donc, bon, ce n'est pas un supermarché, mais on rentre. Il y a évidemment un vigile, un policier... qui est à l'entrée, mais on peut rentrer et puis sortir presque comme on veut, quoi.
Ouais.
Après Tom, peut-être, ouais.
Après, j'ai vu des gens présenter quelque chose, des documents, je suppose. Ils présentent la carte d'identité ou quelque chose.
Pas dans la salle d'audience.
Dehors, aux grilles.
Bah, ça peut dépendre des contextes, parce que justement, ouais, j'allais rajouter qu'il y avait quelques contextes différents, notamment les affaires qui considèrent qu'ils peuvent faire du remous. Par exemple, dernièrement, là, quand il y a eu l'appel par rapport au flic qui avait assassiné Rémi Freys,
voilà,
la famille avait fait
c'est
appel.
C'est exactement de ça dont je voulais parler.
Voilà,
oui,
bah,
oui,
là, c'était impossible de rentrer.
Voilà, c'était impossible de
les
rentrer.
Seules personnes qui avaient le droit de rentrer, c'était avec leur convocation, donc grosso modo, les personnes qui allaient être jugées dans les autres salles d'audience. Et sinon, enfin voilà, c'était. Et en effet, il y a eu quelques. Bah, l'autre fois, cette année aussi, où ils ont eu. Bah, il y a eu aussi la fois où justement il y avait un flic aussi par rapport aussi à Sivens qui avait été jugé parce qu'il avait blessé quelqu'un. Pareil,
une jeune femme dans la caravane.
Voilà, dans une caravane, c'est ça exactement. Bah, pareil, c'était très compliqué de rentrer. Oui, oui. Bah, quand ils ont peur qu'il y ait du remous.
Ouais, en fait, ouais. Là, c'est mon ignorance liée à mon inexpérience, puisque je n'étais pas là sur ces journées-là. Mais en effet, après, voilà, pour le reste du, on va dire, un peu plus commun, moins médiatisé ou je ne sais, enfin, les comparutions classiques, on va dire, c'est ouvert. Et donc, on invite, en fait, les gens. Ça fait aussi partie de nos souhaits, quoi, d'appeler les gens à se rendre à ces audiences, à montrer qu'on n'est pas dupe, enfin qu'on est aussi conscient de cette répression là et donc
voir comment ça fonctionne un minimum.
Tout à fait,
puisque c'est souvent le lot des pauvres d'être confronté à la police et à la justice, hein, puisque c'est
bien
pas
sûr.
Tout à fait, c'est pas anodin. Et donc, en parlant de procès, peut-être on peut en profiter pour dire qu'aujourd'hui Il y aura quelque chose, Tom, tu peux nous dire?
Oui, tout à fait. En plus, pour cet après-midi, on va y aller après voir, puisque du coup, il y a une personne, suite à la manif Gilets jaunes de samedi, en solidarité avec le jeune qui s'est immolé devant le Crous de Lyon. Il y a un moment, le cortège est passé à proximité du Crous de Toulouse et il y a eu une petite tentative d'envahissement qui s'est immédiatement soldée par des gaz et l'intervention de la police. Mais suite à ça, il se trouve qu'il y a eu deux personnes qui ont été interpellées. Une qui a déjà été relâchée, mais une qui est partie sur 48 heures de garde à vue, a passé 2 jours à Cesse et passe donc cet après-midi à partir de 14h en comparution immédiate. Donc on ne sait pas ce qui va advenir, pour une tentative d'envahissement du Crous, en solidarité avec quelqu'un, avec le jeune qui s'est immolé devant le Crous de Lyon. Et il y a aussi un autre camarade qui va passer pour une manifestation du printemps avec les chefs classiques, à savoir on lui reproche de s'être dissimulé le visage et regroupement en vue de commettre des dégradations et des violences, qui sont les chefs classiques que la justice met sur le dos des gilets jaunes qu'ils arrêtent dans le cortège. À partir du moment où on est arrêté dans un cortège, c'est un grand classique, on met soit attroupement, donc attroupement formé en vue d'eux après les sommations, ou alors groupement en vue de commettre. C'est les chefs d'inculpation auxquels on est le plus confronté. Et depuis, du coup, une des lois anti-casseurs, donc la dissimulation de visage, donc depuis début avril, maintenant ils la mettent aussi à tout le monde. Dès qu'on est dans un cortège, forcément, ils disent que les gens sont dans le cadre d'une dissimulation de visage.
Et cette personne qui doit passer en jugement cet après-midi,
oui,
il
en comparution immédiate.
Oui, comparution immédiate pour une interpellation qui date du printemps.
Non,
c'est ce que j'avais compris.
Parce qu'il y en a deux qui passent, mais il y en a un qui passe en effet en comparution immédiate et lui, il a été arrêté samedi.
Samedi,
mais il n'empêche que c'est impressionnant puisqu'il s'est pris en effet les 48 heures de garde à vue et ça fait 2 jours qu'il est à Saïs.
Oui.
Donc c'est sûr qu'ils ont fait ça pour lui mettre la pression et l'emmerder et qu'ils ont joué sur le jour férié, clairement, c'est ça qui est. Voilà. Mais du coup, il est arrêté depuis samedi. Depuis samedi, il est dans les griffes de la justice. Et l'autre camarade, du coup, qui passera plutôt en fin de journée parce qu'il comparaît libre. Lui, c'est ça, il a une convocation pour être jugé suite à une manif. D'ailleurs, il avait aussi fait 48 heures de garde à vue, mais suite à une manifestation du printemps.
Alors, celui-là, il était libre depuis son interpellation.
C'est ça. Il avait fait les 48 heures de garde à vue et il avait relâché avec un contrôle judiciaire. Il doit pointer chaque samedi à 30 km de Toulouse.
Oui, tout à fait.
Voilà. À portée sur Garonne.
Ouais.
C'est-à-dire qu'à moins de 30 km
de Toulouse. Mais bon, pas à Toulouse, quoi.
Voilà, pas à Toulouse.
Mais moi, j'allais dire, quand tu as donc expliqué pourquoi, en fait, la personne qui s'est fait arrêter samedi allait comparaître, tu disais, c'est vrai, juste parce qu'il y a eu. Il est entré dans le Crous, quoi. Et j'allais dire, en fait, ce qui est.
C'est ce dont il est accusé,
oui,
c'est,
voilà.
C'est les chefs d'inculpation.
En fait, quand tu parlais des chefs d'inculpation, j'allais dire quelque chose. C'est vrai que l'une des vertus, entre guillemets, un des intérêts de se rendre aussi aux comparutions, c'est de voir les chefs d'inculpation et de voir les peines qui sont données et les motifs qui font que telle ou telle peine est donnée. Alors, c'est pas pour dire que. Les peines sont disproportionnées ou autres, parce qu'en fait nous on estime que par essence en fait le système judiciaire est injuste, ou enfin voilà qu'il n'y a pas que toute peine entre guillemets est injuste,
qu'il est fait pour frapper les pauvres et voilà. Défendre le système.
Merci. Mais il y a des cas, enfin voilà, moi ce que je garde en tête c'est cet homme qui a été incarcéré pour 1 an parce qu'il a visé l'hélicoptère de la gendarmerie avec un laser pour les enfants, là, voilà. C'est un exemple quand même qui, pour des personnes qui ne sont pas encore convaincues de l'injustice de la justice, permet de se rendre compte un peu de la férocité de la répression et donc de sa dimension politique. Parce que c'est pour ça, en fait, aussi. On estime que c'est précisément parce qu'il y a un péril politique pour l'ordre établi et les personnes qui sont bénéficiaires de cet ordre que la répression est aussi féroce, en fait. Voilà. Et donc les peines et les dispositifs mis en œuvre par l'État et ses appareils pour réprimer en témoignent chaque jour, quoi. Voilà, alors je sais pas, on pourrait éventuellement parler de ce qu'on a, fait au cours de cette année, sur des événements un peu précis, revenir rapidement dessus. Mais je crois qu'on va faire une petite pause musicale pour essayer de, prendre un peu l'air, parce que tout ça est un peu lourd. Mais voilà, donc on se retrouve juste après.
Un petit son. Merci.
Bob Marley nous fait du bien.
Oui, oui, on en a bien besoin.
Tout à fait.
Oui.
Donc on rappelle, 14h au TGI pour ceux qui sont dispo et qui sont motivés pour la compa et le procès qui auront lieu tout à l'heure pour des amis, des camarades de lutte. Voilà. Peut-être on peut faire un retour sur cette année qui vient de, enfin qui ce week-end s'achèvera, cette oui. Première année de GJ, pour dire un peu ce qu'on a fait, au moins sur les événements qu'on a organisés. Voilà, il y a quelques soirées concerts, donc comme disait Tom tout à l'heure, qui ont permis, alors évidemment de récolter un peu d'argent pour les dépenses qu'entraîne. La lutte, enfin pour notamment les incarcérés, comme on le disait tout à l'heure, pour les mandats ou autres. Et donc parmi ces soirées, il y a eu des concerts au Bohème, il y a eu deux éditions, en avril et là récemment en octobre, qui ont été des réussites, vraiment c'était chouette, il y avait vachement de monde, et puis on se rend compte aussi que les luttes, ben, il faut aussi les vivre dans la fête, parce que ça fait du bien de temps en temps de se retrouver autrement que face aux flics.
Ça porte.
Tout à fait.
Et de donc, passer des bons moments.
Ça, ça fait toujours du bien. Voilà, donc merci en fait aussi au lieu hein, qui accueille, parce que finalement, c'est pas si facile que ça. Moi, j'ai le souvenir au début du mouvement d'avoir essayé de poser par exemple des flyers, des tracts ou même des affiches en fait dans des lieux, dans d'autres bars dont je dirais pas le nom, mais qui nous ont refusé tout de suite en fait. C'est-à-dire, alors il y a la dimension politique, voilà, il y a certains marchands ou commerçants qui refusent de s'engager politiquement, voilà, probablement parce que c'est un potentiel de chute de la clientèle sinon. Voilà, mais autre vice de la société marchande. Et donc sinon, voilà, le Haut Bohème, en tout cas, merci à eux, parce qu'ils ont toujours répondu présent. Il y en aura probablement d'autres, parce que chaque fois, ça se passe super bien. Voilà, merci à eux. Après, il y a l'itinéraire bis aussi, où récemment, il y a eu une soirée.
Spécialisé itinéraire bis, hein, dans...
Tout à fait.
Là-dedans.
On les salue aussi, parce qu'ils sont là aussi pour nous, et c'est chouette, et pour tout le monde. J'en oublie, il y a eu Chez les Filles aussi, bar resto qui est pas loin de la gare.
Dans quelques lieux type squat aussi, où on a pu faire des concerts.
Bien sûr.
Mais c'est vrai qu'on a eu beaucoup plus de groupes et de gens qui se proposaient de jouer gratuitement en solidarité que de lieux et de cadres physiques où justement on pouvait le faire, ce qui est dommage parce qu'il y a vraiment pas mal de choses qu'on pourrait faire, mais c'est vrai qu'à chaque fois on manque d'espace et de lieux quoi, pour faire ces choses-là. C'est beaucoup plus compliqué à trouver que les gens.
Tout à fait. Et puis même, pour les lieux, c'est super parce qu'il y a vraiment du monde. Enfin, là même, en octobre, on était un peu dubitatif. On ne savait pas trop si ça allait fonctionner puisque voilà, le mouvement, il faut l'admettre, a un peu diminué en présentiel, en effectif. Même si j'aurais mille et une raisons de dire qu'en fait, c'est loin d'être fini parce qu'il y a quelque chose qui a vraiment été créé. Mais en fait, non, il y a eu beaucoup de monde et le Bohème était très content. Et donc voilà, comme tu dis, c'est ni les artistes ni le public qui manque, c'est plutôt les lieux. Et après, il y a quand même le local Camarade aussi où il y aura un concert. C'est vendredi ?
Non, c'est au local Picmille, concert de soutien.
Désolé pour le local Picmille. Mais en tout cas, vendredi, du coup, il y a un autre concert.
Du punk.
Voilà, du punk. Ce qui est bien parce que aussi on a un peu presque punk tous les styles de musique, donc ouais, punk espagnol, mais donc ouais, vendredi donc aussi soirée au local Picmille, aussi pour la défense collective, et je crois qu'on a un peu fait le tour, pardon si j'en oublie, mais voilà, donc aussi c'est chouette de pouvoir se rencontrer de cette manière là en sachant évidemment qu'au-delà de la musique et de la fête, il y a aussi un infokiosque, enfin une petite table avec plein de documentation. Nous qui sommes là aussi pour discuter avec les gens s'ils veulent des infos. Voilà, et parfois du punch, pas très cher. Et voilà.
Et hors antenne, vous nous parliez tout à l'heure des contacts que vous avez avec d'autres groupes comme le vôtre, un petit peu partout dans le sud, on disait.
C'est vrai qu'il y a eu, logiquement, vu que le mouvement était présent partout, il y a eu d'autres endroits où il y a des groupes comme ça qui se sont montés, enfin du coup des groupes de défense collective, d'autodéfense juridique, etc. Et c'est vrai qu'il y en a eu, en plus il y en a eu quelques-uns qui sont mis à exister suite à un week-end, ce qu'on avait appelé un week-end de rencontre nationale des défenses collectives qu'on avait fait à Toulouse. Et c'est vrai que oui, il y a quelques villes où du coup suite à ça, oui, ça s'est lancé, notamment du côté de Marseille, Montpellier, dans l'Hérault, Alès. Il y a même une personne du Puy-en-Velay qui était venue, Saint-Gaudens, Narbonne.
Rennes aussi, tu l'as dit.
Oui. Eux, pour le coup, d'ailleurs, il y en avait une depuis 2016, depuis le mouvement contre la loi travail. Je crois qu'il y a aussi un petit groupe à Bordeaux qui existait avant. Mais ça, après, c'est logique. Quand il y a un mouvement qui est autant réprimé, qui est autant attaqué, il faut se défendre. Ça, c'est des mécanismes, c'est de l'autodéfense de mouvement.
Tout à fait. Et c'est vrai que ce week-end de rencontre-là, c'était 6 et 7 juillet à la Maison du Peuple, qui est un chouette lieu aussi. C'était bien parce que, à la fois, comme tu dis, ça a pu susciter chez certains l'envie de créer des défenses collectives, et aussi ça a été l'occasion pour nous de rencontrer ou de re-rencontrer des personnes qui faisait partie de défense collective qui existait déjà. Et dans ce principe qui est cardinal pour nous, d'horizontalité, d'échange et
d'auto-organisation. Et,
voilà, on a même hésité à appeler ça des rencontres nationales, dans le sens où on ne veut pas qu'il y ait une sorte de... Enfin, ce n'est pas la défense collective de Toulouse qui a vocation à dire ce qu'il faut faire ou autre. Chaque défense collective, semble-t-il, est plutôt... Un point de chute pour à la fois les personnes qui sont victimes et à la fois les personnes qui veulent entrer en lutte et défendre les, enfin les victimes, les personnes qui subissent la répression, quoi. Donc,
Oui, et puis ça, je pense que ça correspond avec l'image d'autogestion du mouvement. C'est pas pyramidal, hein.
Non, tout
c'est
à fait.
Complètement
tout à fait horizontal.
Horizontal.
C'est ce qui fait sa force.
Tout à fait.
Et démocratique.
Et même en parlant de ça, en fait, il y a. Alors, je crois que c'était la semaine dernière, je ne sais plus trop. Il y a eu l'ADA, ou c'était la semaine d'avant, l'Assemblée des Assemblées.
Oui.
À Montpellier. Et donc, il y a quelqu'un dont on est plus ou moins proche qui est allé. Donc, et, alors, moi, je l'ai vu le samedi d'après à la manif. Et alors, il m'a dit un truc qui m'a fait marrer. Il m'a dit. Ouais, c'était super, c'était le Disneyland démocratique. Je lui dis, bah, c'est bizarre, qu'est-ce que tu racontes? Moi, je lui dis, c'est pas si génial que ça. Et il me dit, si, parce qu'en fait, le principe assemblée des assemblées, précisément, c'est pas qu'il y ait un organe central qui ensuite dise aux autres localement ce qu'il faut faire. C'est plutôt une occasion de se rencontrer et ensuite, en fait, de faire des ateliers. Et c'est pour ça que lui, il a trouvé ça assez ludique, en fait, c'est pour ça qu'il a utilisé le terme de Disney. Où il y a eu tout un tas d'ateliers organisés. Alors, je n'ai pas le souvenir en détail de ce qui a été organisé comme atelier, mais il me disait qu'il y avait une sorte d'effervescence et de plaisir, d'enthousiasme à être ensemble et à, voilà, et à échanger sur des thématiques très particulières et des pratiques particulières aussi. Et voilà, donc ça, c'est vrai que c'est un truc qui reste fondamental, je crois, dans le mouvement, le fait qu'il y ait un refus de représentation et juste d'être en action, en lutte directement entre nous, quoi. Voilà.
Oui.
Thank you.
revoir.
Alors, on revient et on vient de détailler un petit peu les, je dirais pas les techniques, mais les précautions à connaître et les, oui, les marches à suivre dans beaucoup de situations. Mmh. Si on peut revenir dessus.
Oui, tout à fait, on était en train de parler de ça, justement, mm-hmm. ça s'inscrit dans ce qu'on fait avec le collectif de la défense collective. C'est vrai qu'on diffuse justement des pratiques d'autodéfense hein, mm-hmm. face à la police et face à la justice. Et c'est vrai que dans les quelques conseils de base que du coup on dit qu'il faut toujours suivre parce que c'est important, il y a ne rien déclarer en garde à vue. Donc lorsqu'on est arrêté et qu'on part du coup au comico ou à la gendarmerie, il faut savoir que les flics, tout ce qu'ils recueillent à ce moment-là lors des auditions, en fait, c'est à la charge de la personne. Donc c'est pour nuire à la personne, il faut le savoir. Hein. C'est là qu'elles veulent constituer le dossier et qu'il y a trop de personnes qui, lorsqu'elles parlent, en fait, donnent les uniques données qu'il y a dans les dossiers et s'auto-incriminent, ou pire même, parfois incriminent d'autres gens. Mais c'est vraiment une règle de base qu'il faut avoir en tête, en garde à vue, ne rien déclarer. Quand la police vous amène en audition, il faut dire « j'exerce mon droit de garder le silence ». Parce que tout ce qui est dit lors d'une garde à vue, c'est contre la personne. Et c'est à ça que servent les flics dans ce moment-là. Donc ça, c'est quelque chose qu'on martèle, c'est vraiment une pratique qu'on diffuse. Et une autre pratique qu'on diffuse aussi largement, qui est très importante, toujours pour l'autodéfense des gens hein, face à la justice, à la police, pour défendre le mouvement, lorsqu'on passe en comparution immédiate, ce qui est du coup, enfin voilà, quand on est dans ce schéma-là, c'est que vraiment ils veulent nous mettre la pression et nous mettre la tête sous l'eau. Hein. Généralement, on a eu une garde à vue qui a pu durer jusqu'à 48 heures, donc on est complètement déphasé. Et là, boum, ils envoient en comparution immédiate, quelque chose qui en France existe depuis une quinzaine d'années et qui permet justement de faire de la justice expéditive, à savoir que ce qui se passe dans le cadre d'une comparution immédiate, en fait l'avocat a vu le dossier un quart d'heure, la personne sort de garde à vue, donc n'est absolument pas à même de réfléchir, se défendre, enfin bref, elle est complètement déphasée par ce qu'elle vient de vivre, et en plus du coup ce jugement intervient peu de temps après qu'il soit passé des choses. Donc en plus, les juges ont bien en tête, par exemple, des manifs qui ont été un petit peu remuantes, etc. Donc c'est pour ça que lorsque le procureur ordonne qu'on passe en comparution immédiate, il faut toujours demander un délai pour préparer sa défense, puisque du coup, ça permet d'être jugé généralement 3 semaines à 1 mois plus tard, et du coup, à ce moment-là, d'avoir eu le temps de préparer sa défense, que l'avocat ait pu potasser le dossier, que soi-même, on soit plus préparé et on ne sorte pas de garde à vue, mais ça c'est extrêmement important. Et il y a un chiffre du coup que je donne parce que c'est important, mais par exemple il faut savoir qu'entre les gens qui préparent leur défense, donc qui ont demandé un report, qui ont demandé un délai, et ceux qui ont accepté d'être jugés immédiatement lors d'une comparution immédiate, il y a grosso modo 40 à 50% de différence au niveau de la dureté de la peine. On prend 40 à 50% pire plus quand on est jugé immédiatement pour les raisons que je vous ai dites. Donc ça, c'est très, très important.
C'est ce que j'allais dire. En fait, aussi, les principes ou en tout cas les pratiques qu'on suggère, qu'on recommande, c'est pas, un fantasme ou un idéal particulier. C'est juste que par l'expérience, on se rend compte que c'est ce qui fonctionne. Et même si ça peut paraître pour certaines personnes pas habituées à se confronter à l'appareil répressif, aux appareils répressifs, le fait de rien déclarer, c'est un droit. Et donc, même si les flics en général jouent sur notre ignorance du droit et sur la peur qui s'installe en nous face justement à cette autorité qu'on a toujours plus ou moins appris à respecter, ça dépend des gens, mais donc voilà, en fait, il faut se dire que je pense que justement, il y a beaucoup de gens qui sont dans le fantasme et qui ne se rendent pas forcément compte des droits qu'on a et de la pertinence à s'opposer à ces appareils de répression. Et donc, le fait de rien déclarer, c'est tout à fait dans notre droit. Et même si parfois, on va vous dire « oui, mais il faut au moins donner son identité ou d'autres choses », en fait, on se rend compte que, ou par exemple sur d'autres choses comme le fait de refuser la signalétique ou la prise ADN ou des choses comme ça, on va vous dire « oui, mais t'imagines, là par contre, t'es vraiment obligé, etc. » Alors oui, bon, sans rentrer dans les détails du droit, ce qui est sûr par expérience aussi, c'est que si jamais on refuse quelque chose comme ça alors que c'est obligatoire, il se trouve qu'ensuite, lorsqu'on passe au tribunal, eh ben, très souvent, en fait, alors, soit on est relaxé, soit en tout cas les peines ne sont pas si importantes que ça, et ça vaut le coup de tenir ce genre de position parce que, encore une fois, comme on le disait, sur le long terme, ça inscrit
la lutte dans une dimension collective et ça instaure un rapport de force. Et on pense aussi que c'est sur le long terme justement que les luttes peuvent être gagnées, quoi. Voilà, donc c'est pour ça qu'on en profite sur le long terme, ça fait un an, et c'est aussi pour ça qu'on est là. C'est les un an de DGJ qui aura lieu ce week-end. Évidemment, on se prépare à une répression féroce, parce que c'est aussi leur un an quelque part, tout en tout cas la répression de ce mouvement. Et voilà, mais on est là, et on est là encore. Et donc on vous invite à venir nous rencontrer les dimanches à La Chapelle, de 17h à 19h.
C'est ça.
Et puis les lundis au Mixart Mérise de 18h à 20h, juste avant la commission action des Gilets jaunes. Nous, on est juste les 2 heures qui précèdent la commission.
Et La Chapelle, pour ceux qui ne connaissent pas, l'adresse, c'est au 36 rue Daniel Casanova, à côté du métro Canal du Midi. Et d'ailleurs, pas très loin du commissariat central.
Tout à fait.
Pour le clin d'œil.
Tout à fait près, oui.
Et sinon, pour le week-end qui vient aussi, dire que tout le monde pour le mouvement se retrouve à partir de samedi matin 8h du coup pour retourner ou aller parce que certains ronds-points ont continué à totalement exister depuis un an. Mais du coup, il y a 7 ou 8 ronds-points autour de Toulouse où il y aura du monde à partir de 8h du matin samedi. Il y a la manif à 14h, comme d'habitude à Jaurès. Et le dimanche, bah, il y a des choses de prévues, il y a des ronds-points à prendre et voilà. Il y a des choses. Il va se passer des choses aussi le dimanche et il faut continuer parce que c'est toute la force du mouvement Gilets jaunes, c'est qu'il a duré et qu'on sait que pour obtenir des choses, créer du rapport de force, en fait, c'est dans la durée et c'est jour après jour que ça se fait. C'est pas sporadiquement comme ça.
Et qu'il y a aussi quelque chose qui est vrai par expérience aussi, c'est que les détracteurs vont dire « Oui, mais ça ne sert à rien, regardez, le gouvernement n'a pas démissionné, ceci ne s'est pas passé alors que vous le souhaitiez, vos revendications. » Ok, stop. On se calme. Souvent, les résultats aussi, moi, selon mon point de vue, mon expérience, arrivent sur le chemin. C'est-à-dire, en fait, c'est précisément en luttant qu'on construit des choses qu'on n'avait pas forcément anticipées auparavant. Et moi, c'est ce que je retiens le plus, en fait, de ce mouvement, parce qu'aussi, personnellement, je suis un peu jeune dans ces mouvements de lutte. Et le mouvement des Gilets jaunes m'a beaucoup remué et enraciné, je crois, aussi dans la lutte. Et ça, c'est quelque chose que, précisément, quand on ne fait pas partie du mouvement et qu'on est extérieur, on ne perçoit pas. Et donc, les résultats, en fait, sont évidemment, il y a des résultats qu'on n'a pas atteints, mais on continuera et il y a plein de choses qui se passent pendant la lutte et c'est ça qui compte beaucoup aussi, je crois.
Voilà. On se demande, on m'a demandé quelquefois, quel genre de contact vous aviez avec les autres personnes incarcérées qui ne sont pas alpaguées en manif, etc.
Qui ne sont pas GJ, tu veux dire, Gilets jaunes? Non, c'est pas ça.
Pardon?
Tu veux dire les personnes qui sont, les prisonniers en général qui ne sont pas du mouvement Gilets
oui,
jaunes?
Oui, ou même qui n'ont pas été harponnés en manif, qui étaient avant, etc. Est-ce que vous avez des...
C'est une bonne question. On en parlait en venant.
Des contacts et comment ça se passe
Tu veux répondre?
Avec la défense collective, hormis une ou deux personnes ou via des incarcérés qui avaient été du coup arrêtés lors des journées du samedi ou du moins dans le cadre du mouvement Gilets jaunes et qui avaient parlé de codétenus qui étaient favorables au mouvement. Donc on a eu des liens avec une ou deux personnes comme ça. Mais concrètement, non. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en prison, pour le coup, c'est toujours les mêmes profils, hein, à savoir on est tous dans le même bateau. C'est voilà, les gens qui sont en prison, c'est la plupart sont confrontés. Enfin, c'est le fait d'être pauvre et le fait de pas rentrer dans les cadres de la société, qu'on mouvement ou pas mouvement, ou gilet jaune ou pas gilet jaune, on fait tous partie de ceux qu'en prennent toujours plein la gueule.
Oui.
Et pour le coup, il y avait avant la défense collective et quelque chose, d'ailleurs qui existe encore, qui du coup, vu qu'il y a beaucoup de choses à faire, moins en ce moment, mais est toujours présente, il y avait la caisse d'autodéfense juridique, la CAJ, qui elle du coup avait des liens épistolaires avec quelques personnes en prison avant le mouvement.
Moi, ce que j'ai trouvé extraordinaire, c'était que le citoyen lambda, ce qui se passe en prison, il ne sait pas.
Bien sûr.
Il n'a aucune idée. Aucune idée. Et tout d'un coup, vous l'avez projeté dans cet univers-là. Et on découvre maintenant ce que c'est que les prisons. Ouais, avant, on ne savait pas. On ne savait pas, à moins de connaître quelqu'un qui connaissait, etc. Et c'est...
Un des résultats dont je parlais, je crois, capital, tout à l'heure, qui ne faisait pas partie des revendications, mais un des résultats, c'est par exemple cette visibilisation un peu plus accrue, en tout cas, des prisons.
Absolument.
Qui s'est faite, en fait, par nécessité. Ouais. J'y pense là, je me dis, ça illustre un peu ce que je disais tout à l'heure. Il y a des choses qui arrivent et qui naissent du mouvement en lui-même, en fait.
Complètement. Et c'est le mouvement qui a apporté ça et qui a mis ça, en effet, en lumière. Et c'est pour ça, d'ailleurs, puisque du coup, avec les défenses collectives, on a quelques bases, enfin, quelques positionnements politiques, et notamment, il y a quelque chose où lorsqu'on en discute comme ça, on n'aime pas trop le concept de prisonnier politique. Il y en a certains qui disent que par rapport aux gilets jaunes, il faut poser le concept de prisonnier politique. Et c'est vrai que nous, on a tendance à considérer que toutes les personnes, en fait, qui se retrouvent, une grande majorité des personnes qui se retrouvent en prison, sont des prisonniers sociaux, puisque les trois quarts des gens qui se retrouvent en prison le sont. Parce qu'ils sont pauvres, parce qu'ils sont nés du mauvais côté, du compte en banque. Et c'est vrai que le mouvement a vachement aidé à ça, et ça fait des passerelles,
ça montre
qu'on est pas mal à être du mauvais côté du compte en banque.
C'est quelque chose que je trouve extraordinaire, inattendu. Inattendu probablement du pouvoir aussi, parce que maintenant il y a une fraternité qui s'établit. On a beau eu l'audace de salir le mouvement en question. Non, ça ne marche pas.
Tout à fait.
Bon, voilà.
J'allais repartir sur des choses un peu compliquées et techniques, mais on en profite aussi pour dire que, en fait, on aimerait bien, si Daniel nous accueille et Philippe aussi, revenir une fois par mois. C'était ce qu'on
absolument,
s'était dit.
Absolument, absolument. Voilà, vous avez votre chaise, vous pouvez marquer votre nom sur votre chaise.
Ce super créneau pour la défense collective, c'est super. Merci
absolument.
À vous deux de nous
beaucoup.
Avoir accueillis.
Absolument.
Et ce sera pas à chaque fois à nous deux, parce qu'il faut que ça tourne, comme le reste.
Oui.
On en profite juste avant de rendre le micro pour annoncer les procès du mois de novembre qui vont venir. D'ailleurs, il y a quelque chose qu'on n'a pas dit, mais d'une part, il y a une adresse mail pour rentrer en contact avec nous. Donc, on a dit il y a la chapelle le dimanche de 17h à 19h et le lundi le mixeur de 18h à 20h. Mais il y a aussi un site, défensecollective.noblog.org. Ça, c'est le blog donc, sur lequel il y a tout un tas d'informations, pas mal de choses qu'on a déjà dites. Et des ressources aussi, des tracts ou des comptes rendus de comparution. En tout cas, allez-y, voilà, il y a plein de choses. Et donc, il y a une adresse mail, donc c'est défensecollective@riseup.net. Voilà, donc
Je précise parce que sinon, je crois que ça fait une erreur si je ne me trompe pas. Pour les deux, pour le blog et pour l'adresse, en fait, c'est Défense Collective Toulouse. Défense Collective Toulouse. @riseup.net et pareil pour le blog Défense Collective Toulouse, noblogs.org.
Tout à fait, parce que sinon, enfin, on va tomber sur d'autres défenses collectives, ce qui n'est pas une mauvaise chose, mais du coup, il faut spécifier que c'est Toulouse.
Ça crée des passerelles.
Voilà. C'est ça. Détruisons les murs et construisons les ponts avec les pierres.
Absolument.
Et donc, en tout cas, pour le mois de novembre, il y a donc mercredi 13, c'est aujourd'hui, à partir de 14h. Il y aura mardi 19 aussi, la semaine prochaine. Donc, à chaque fois, c'est à partir de 14h. Donc, mardi 19, un procès en appel. Le jeudi 21, à partir de 14h aussi. Tom, je te laisse dire ce qui reste. Il y a le mercredi...
Oui, il y a également le mercredi 27 novembre, par rapport à quelqu'un qui avait été arrêté lors de la manif du 13 avril. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, c'était la fameuse manif nationale. Ouais. On avait eu une nasse de plusieurs milliers de personnes qui avait duré 2 heures, pour ceux qui y étaient. Et il y a également quelqu'un qui passera le jeudi 28 novembre, à partir de 14h, pour une manif du 12 octobre, et pour les classiques de refus d'ADN, dissimulation de visage, participation à un groupement en vue de commettre des violences et des dégradations. Et d'ailleurs, là, je rajoute aussi, il y a quelqu'un qui passe vendredi matin à 8h30 ou 9h. C'est le gars là, de Rebousse-Poil, le journaliste là, qui a été accusé par les flics de rébellion, qu'ils ont emmené en garde à vue. Et voilà, lui, du coup, il passe là, ce vendredi qui vient.
Et le matin, du coup, cette fois.
Voilà,
le
matin.
À 8h30.
8h30 ou 9h, je ne me rappelle plus, pour rébellion. Voilà, c'est le journaliste de Rebousse-Poil, pour ceux qui connaissent.
Merci encore une fois, et donc n'hésitez pas à rentrer en contact avec nous par le blog, par l'adresse mail, directement à La Chapelle ou au MixArt ou au TGI, direct. Voilà, si vous voyez des jeunes gens un peu motivés, allez les voir, ce sera probablement nous. Thank you.